chaque match, je prépare le même. Je ne peux pas penser différemment quand je joue contre Neymar, Mbappé, Cavani ou quand je joue contre Leganés ou Celta. Naturellement, Neymar, Mbappé et Cavani sont des meilleurs du monde. Mais toujours, je regarde les vidéos des buts, des actions, des coups francs, des pénaltys pour moi-même être préparé.
Côté madrilène, ce n'est pas mal non plus avec une attaque Benzema, Hazard et Rodrigo. Conclusion de Zinedine Zidane.
Ça va être un super match.
Éric Mamrut, Madrid, RFI.
Un super match à suivre sur RFI dès 20h50.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Prenons l'avion ensemble. Attachez vos ceintures. Voici qu'en moins de 4 heures, nous atterrissons dans cette immense métropole de 17 millions d'habitants, Le Caire, capitale de l'Égypte. Dans le bruit, au milieu des odeurs, à travers la cohue, prenons la rue Soliman Pacha, qui mène à un immeuble bien particulier, construit dans les années 30 par un riche Arménien. C'est l'immeuble Yacoubian. Ce bel immeuble, cossu, de 10 étages, existe bel et bien. L'écrivain El Asbani y a tenu pendant un temps son cabinet dentaire. Mais depuis le succès de son roman, l'immeuble Yacoubian est devenu un monument littéraire. 100 000 exemplaires, en effet, ont été vendus de ce roman talentueux qui nous permet de suivre le destin chaotant de ses habitants. Il est paru en 2004 en Égypte, puis a été traduit en français et publié chez Actes Sud en 2006. De nombreuses autres traductions, dans diverses langues, ont suivi. Un film a été tourné également par Marwan Ahmed, qui a remporté à la Biennale du cinéma le Grand Prix IMA.
Disons quelques mots de son auteur, Ala El Asvani, aujourd'hui 54 ans. Il a suivi ses études en français et a étudié aux États-Unis pour être dentiste. Il exerce toujours ce métier et continue d'écrire car, dit-il, il a besoin du contact avec le peuple du Caire qu'il aime et qui l'inspire. Aujourd'hui, il est présent en prenant la parole aux côtés des Kairotes pendant les événements de cette année 2011 où le peuple se soulève contre le pouvoir dictatorial en place depuis tant d'années. Il accorde la plus grande importance à ses personnages qu'il brosse avec ironie et tendresse en même temps qu'il dénonce à travers eux une société inégalitaire et répressive, pudibonde et sensuelle. Une société qui oblige beaucoup de femmes démunies à se mettre en ménage avec des hommes plus âgés et argentés. Car malgré l'humour, le livre dénonce la corruption du pouvoir, son utilisation de la torture, la mise en échec des jeunes qui risquent de prendre la voie fanatique de l'islamisme. El Asvani affirme « L'auteur est aussi un citoyen avec une responsabilité dans la société dans laquelle il vit ». Mais qui donc habite l'immeuble Yacoubian ?
D'abord, le personnage le plus ancien de l'immeuble, Zaki Dessouki. Voici son portrait. 100 mètres à peine séparent le passage Ballard, où habite Zaki Dessouki, de son bureau de l'immeuble Yacoubian. Mais il met tous les matins une heure à les franchir, car il lui faut saluer les amis de la rue. Les marchands de chaussures et leurs commis des deux sexes, les garçons de café, le personnel du cinéma, les habitués du magasin de café brésilien. Zaki Bey connaît par leur nom jusqu'au concierge, cireur de souliers, mendiant et agent de la circulation. Il échange avec eux salutations et nouvelles. C'est un des plus anciens habitants de la rue Soliman Pacha. Arrivé à la fin des années 1940, après ses études en France, il ne s'en est plus jamais éloigné. Pour les habitants de la rue, c'est un aimable personnage, folklorique, vêtu été comme hiver d'un complet, dont l'ampleur dissimule un corps maigre et chétif. Une pochette soigneusement repassée et assortie à la couleur de la cravate, dépassant de la poche de la veste. Son fameux cigare à la bouche, du temps de sa splendeur, c'était un luxueux cigare cubain. Maintenant, il fume un mauvais spécimen local, à l'odeur épouvantable et qui tire mal. Son visage ridé de vieillard, ses épaisses lunettes, ses fausses dents brillantes et ses cheveux teints en noir, dont les rares mèches sont alignées de gauche et de droite pour cacher un crâne dégarni. En un mot, Zaki Dessouki est un personnage de légende, ce qui rend sa présence attachante et pas totalement réelle, comme s'il pouvait disparaître d'un moment à l'autre, comme si c'était un acteur qui jouait un rôle et dont on savait qu'une fois la représentation terminée, il allait enlever ses vêtements de scène pour reprendre ses habits de tous les jours. Si l'on ajoute à cela son esprit enjoué, ses sempiternelles plaisanteries grivoises et son étonnante capacité à s'adresser à chaque personne rencontrée comme à un vieil ami, on peut comprendre le secret de l'accueil chaleureux que lui font tous les matins, aux environs de 10 heures, les habitants de la rue. Les salutations matinales s'élèvent de toutes parts, et souvent, parmi les employés des magasins, un de ses jeunes amis se précipite vers lui pour l'interroger, d'un ton espiègle, sur une question d'ordre sexuel qui lui paraît obscure. Zaki Bey fait alors appel à ses connaissances encyclopédiques dans ce domaine, et il expose aux jeunes, complaisamment, à voix audible de tous et avec force détail, les plus intimes secrets du sexe. Parfois même, il leur demande une feuille et un crayon, qu'on lui fournit en un clin d'œil, pour dessiner avec clarté certaines positions originales qu'il a lui-même essayées du temps de sa jeunesse.
Voici maintenant une femme, Boussaïna Sayed, jeune femme qui croisera bientôt nos personnages masculins. Elle s'apprête à gagner sa vie dans un magasin de confection dont le patron est M. Talal. Le lendemain, Boussaïna alla avec Fifi au magasin chez M. Talal. Il lui apparut comme un homme dans la quarantaine, le visage blanc, les yeux bleus, chauve et corpulent, avec un nez aplati et une grosse moustache noire qui retombait des deux côtés de sa bouche. Talal n'était pas beau du tout. Boussaïna savait que, tout en ayant des sœurs, il était le seul fils du Hadj Shanan, le Syrien. Ce dernier, venu de Syrie, au moment de l'union entre les deux pays, s'était établi en Égypte, où il avait ouvert cet établissement, puis, une fois parvenu à un âge avancé, avait confié son commerce à son fils unique. Boussaïna savait qu'il était marié, que son épouse était égyptienne, qu'elle était belle, qu'elle lui avait donné 2 fils et que malgré cela, son obsession des femmes était insatiable. Talal avait salué Boussaïna en lui pressant la main et tout en lui parlant, il avait les yeux fixés sur sa poitrine et sur son corps. Quelques minutes plus tard, elle prenait ses nouvelles fonctions et seulement quelques semaines s'écoulèrent avant que Fifi ne lui apprît ce qu'elle devait faire. Comment prendre soin de son apparence? Vernir les ongles de ses mains et de ses pieds, entr'ouvrir un peu son décolleté, desserrer la taille de ses jupes pour bien mettre en valeur son postérieur et ses fesses, Le matin, avec ses collègues, elle devait ouvrir le magasin et l'épousseter. Ensuite, il leur fallait rectifier leur toilette et se tenir devant la porte du magasin. C'est là une méthode connue dans toutes les boutiques de vêtements pour attirer les clients. Quand venait un client, elle devait lui faire des politesses, répondre à ses demandes et le convaincre d'acheter la plus grande quantité possible de marchandises. Il lui revenait 0,5% du prix des ventes. Bien sûr, elle devait également faire semblant de ne pas remarquer les avaries que leur faisaient subir les clients, si abjectes soient-elles. Tout ceci pour ce qui concernait le travail. Quant à l'autre question, M. Talal l'avait abordée le troisième jour après son arrivée. C'était en milieu d'après-midi et le magasin était vide de clients. Talal lui avait demandé de l'accompagner à la réserve pour lui montrer les différents articles qui étaient stockés. Boussaïna l'avait suivi en silence. Elle avait remarqué un sourire furtif et moqueur sur le visage de Fifi et des autres filles. La réserve était un grand appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin du restaurant à l'américaine rue Soliman Pacha. Talal la fit entrer et ferma la porte de l'intérieur. Elle regarda autour d'elle. L'endroit était frais, mal éclairé, mal aéré et plein à craquer de caisses de marchandises entassées jusqu'au plafond. Elle savait ce qui l'attendait et s'y était préparée en chemin vers la réserve en se répétant les paroles de sa mère. « Tes sœurs et ton frère ont besoin du moindre centime que tu peux gagner. » Une fille débrouillarde sait à la fois se préserver et préserver son emploi. Lorsque M. Talal s'était approché, des sentiments violents et contradictoires s'étaient emparés d'elle. D'abord, la ferme intention de profiter au mieux de l'occasion offerte et la peur qui, malgré tout, l'étreignait, la faisait haleter et lui faisait ressentir une sorte de nausée, mais également la curiosité secrète et stimulante de savoir comment M. Talal allait s'y prendre avec elle. Allait-il lui faire la cour et lui dire « Je t'aime », par exemple ? Ou bien allait-il essayer de l'embrasser directement ? La réponse lui était venue rapidement. Il l'assaillit par derrière, l'étreignit si fort qu'il lui fit mal, se mit à se coller à elle et à tripoter son corps sans dire un seul mot. Il était violent et sa jouissance rapide. L'affaire ne prit pas plus de 2 minutes avant qu'il ne pollue ses vêtements. Il lui murmura en haletant « Les toilettes sont au bout du couloir, à droite. » En rinçant son vêtement à l'eau, elle avait pensé que cela était plus simple qu'elle n'avait cru. Cela ressemblait à la façon dont certains se collaient à son corps dans l'autobus, ce qui lui arrivait souvent. Elle se rappelait ce que Fifi lui avait conseillé de faire après la rencontre. Elle retourna vers M. Talal et lui dit une voix qu'elle essaya, dans la mesure du possible, de rendre douce et engageante. « Monsieur Talal, j'ai besoin que vous me donniez 20 livres. » Talal la regarda un moment, puis plongea rapidement sa main dans sa poche, comme s'il s'attendait à la demande, et lui dit d'un ton calme, en lui tendant un billet plié, « Non, 10 livres suffiront. Reviens derrière moi au magasin dès que ta robe aura séché. » Puis il était sorti et avait refermé la porte. Elle recevait chaque fois 10 livres et M. Talal la demandait 2 fois par semaine, quelquefois 3. Fifi lui avait appris comment de temps en temps faire comprendre qu'une robe du magasin lui plaisait et insistait auprès de M. Talal jusqu'à ce qu'il la lui offre. Elle se mit à gagner de l'argent et à bien s'habiller. Sa mère était satisfaite, rassurée par l'argent qu'elle lui prenait et glissait dans sa poitrine avant d'appeler ardemment la bénédiction de Dieu sur elle. Lorsqu'elle écoutait ses invocations, Boussaïna était prise du désir mauvais et inavoué de laisser clairement entendre à sa mère quelles étaient ses relations avec Talal. Sa mère faisait semblant de ne pas saisir le message et Boussaïna appesantissait ses insinuations jusqu'à ce que la volonté de sa mère de ne pas comprendre devienne évidente. Alors, Boussaïna se sentait soulagée, comme si elle avait arraché des yeux de sa mère un masque d'innocence factice en dénonçant sa participation au crime à ses côtés.
Le premier amoureux de Boussaïna fut Taha, jeune homme très méritant, le fils du gardien de l'immeuble Yacoubiane. L'obscurité de la nuit se retire, annonçant un nouveau matin, et la fenêtre de la chambre de Chazli, le concierge de l'immeuble, est éclairée d'une petite lumière blafarde. Son fils, le jeune Taha, a passé la nuit éveillé, en proie à l'anxiété. Il a fait la prière de l'aube, avec en plus les deux prosternations facultatives. Pour exaucer son rêve, Taha Chazli, qui, depuis qu'il est petit, aidait son père dans son service, supportait également la mesquinerie et l'arrogance des habitants de l'immeuble. Ceux-ci, lorsqu'ils se rendirent compte à quel point il était intelligent et doué pour les études, réagirent diversement. Certains l'encourageaient à étudier, se montraient généreux dans leur pourboire et lui prédisaient un avenir splendide. Mais, pour les autres, et ils étaient nombreux, l'idée que le fils du concierge soit excellent à l'école leur déplaisait d'une certaine façon, et ils essayaient de convaincre son père de l'inscrire dans une section professionnelle après le collège pour qu'il apprenne un métier, dans ton intérêt et dans son intérêt à lui aussi, disait-il au père Chazli, en affectant de compatir à son sort. Lorsque Taha rejoignit le secondaire, où il continua à avoir des résultats excellents, il le réclamait les jours d'examen pour le charger de tâches pénibles qui prenaient beaucoup de temps et lui donnait de gros pourboires pour le tenter, avec le secret et malveillant désir de le retarder dans ses révisions. Taha acceptait ses tâches parce qu'il avait besoin d'argent. Mais il continuait à s'anéantir dans les études au point qu'il lui arrivait souvent de passer un ou deux jours sans dormir.
Taha est convoqué pour passer son examen afin d'entrer dans la police. Un des membres du jury l'interroge.
Il prit pour la première fois la parole pour demander à Taha ce qu'il ferait si, sur le point d'arrêter un criminel, il se rendait compte que c'était un de ses amis d'enfance. Taha avait prévu la question et tenait sa réponse prête. Il fit cependant semblant de réfléchir pour un peu faire une impression sur les examinateurs avant de dire « Monsieur, le devoir ne connaît ni amis ni parents. » Le policier, comme le soldat pendant la bataille, doit faire son devoir, sans aucune autre considération, au service de Dieu et de la patrie. L'officier sourit et hocha la tête en signe de franche admiration. Le silence se fit comme si l'épreuve était finie, et Taha s'attendait qu'on lui dise qu'il pouvait disposer. Mais le président fixa soudain les yeux sur les papiers devant lui, comme s'il y découvrait quelque chose. Il souleva légèrement une feuille pour s'assurer de ce qu'il venait de lire et demanda à Taha, en évitant de le regarder dans les yeux.
« Dis-moi, Taha, quel est le métier de ton père ?»«
Employé, monsieur. » C'était ce qui était écrit sur le formulaire d'inscription. Il avait payé 100 livres de bakchich au tchèque du quartier pour qu'il signe cette attestation.
Employé ou gardien d'immeuble ?
Taha se tut un instant, puis d'une voix faible, « Mon père est gardien d'immeuble, monsieur. »
Taha, vous l'avez compris, ne sera pas admis à l'issue de l'épreuve, alors confronté à un avenir sans issue, il opte pour un changement radical.
Ceux qui avaient connu Taha Chazli autrefois auraient eu du mal à le reconnaître maintenant. Il avait complètement changé, comme s'il avait troqué sa personnalité ancienne pour une nouvelle. Cela ne se limitait pas à la tenue islamique par laquelle il avait remplacé ses vêtements occidentaux, ni à la barbe qu'il avait laissé pousser et qui lui donnait un aspect imposant et grave, le faisant paraître plus vieux que son âge, ni au petit local à prière qu'il avait aménagé à côté de l'ascenseur, près de l'entrée, où il se relayait pour l'appel à la prière avec un frère barbu, étudiant en polytechnique, qui habitait au 5e étage. Tous ces changements n'affectaient que son apparence, mais à l'intérieur, c'était une âme nouvelle, forte et fougueuse, qui avait pris possession de lui. Il marchait, s'asseyait, parlait avec les gens d'une manière nouvelle. Avaient disparu à jamais ces manifestations d'humilité, ce respect plein de timidité, ce dos courbé devant les habitants de la maison. Maintenant, il les affrontait, plein de confiance en lui. Il n'en faisait aucun cas. Il ne pouvait plus supporter la moindre remontrance de leur part, le moindre signe de mépris. Les petits billets de banque dont il le gratifiait et qu'il économisait pour subvenir à ses nouveaux besoins n'avaient plus d'importance pour lui. Tout d'abord parce qu'il croyait fermement que Dieu y pourvoirait. Ensuite parce que le tchèque chaker, qu'il avait associé à son commerce de livres religieux, de simples courses qu'il faisait à ses moments perdus et qui lui rapportait une somme convenable. Il s'entraînait maintenant à aimer les gens ou à les détester par rapport à Dieu. Il avait appris du tchèque chaker que le genre humain est trop méprisable pour qu'on l'aime ou qu'on le déteste en fonction de ses qualités séculières, mais que nous devons fixer nos sentiments à son égard en fonction de son observance de la loi divine. C'est ainsi que son point de vue changea sur de nombreux points. Autrefois, il aimait certains habitants de l'immeuble parce qu'ils étaient bons envers lui et généreux. Il se mit à les détester parce qu'ils ne faisaient pas la prière et que certains buvaient de l'alcool. Il se mit à aimer ses frères de la Jamaa au point d'être prêt à donner sa vie pour eux. Tous ces anciens critères séculiers s'écroulaient, comme s'effondre un bâtiment ancien lézardé, et furent remplacés par une juste appréhension islamique des êtres et des choses. La force de la foi avait jailli dans son cœur et avait fait de lui un être nouveau, libéré de la peur et du mal, et qui ne craignait plus la mort, ne redoutait plus aucune créature, quel que soit son pouvoir ou son autorité. Il ne craignait plus dans sa vie tout entière que de désobéir à Dieu et de susciter sa colère. De cela, le mérite revenait d'abord à Dieu, qu'il soit vénéré et exalté, ensuite au tchèque chaker, qui, à chacune de leurs rencontres, augmentait sa foi en Dieu et sa connaissance de l'islam. Taha l'aimait, il s'attacha à lui et devint l'un des plus proches, au point que le tchèque l'autorisa à lui rendre visite à tout moment, à son domicile, ce qui lui conférait une position exceptionnelle, que le tchèque n'accordait qu'aux meilleurs de ses fidèles. De l'ère ancienne, Taha n'avait gardé à l'esprit que son amour pour Boussaïna. Il déploya tous ses efforts pour soumettre ses sentiments envers elle à sa pensée nouvelle, mais sans succès. Il s'efforça de la convaincre de devenir pratiquante. Il lui apporta un livre dont le titre était plutôt le hijab que la damnation. Et il insista jusqu'à ce qu'elle l'accompagne à la mosquée Anas ibn Malik. Et elle écouta avec lui le tchèque chaker, mais il en fut stupéfait et attristé. Elle ne fut pas impressionnée par le prêche, et au contraire lui déclara qu'il était ennuyeux, ce qui provoqua une dispute entre eux. Voici la dispute entre Boussaïna et Taha. Elle avança en faisant semblant de l'ignorer, mais il ne se contrôla plus et la tira par la main. Elle résista un instant, puis obtempéra en lui murmurant effarouchée. Lâche ma main, ne fais pas de scandale !» Ils marchèrent tous les deux en silence sur leur garde, au milieu des passants, jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur endroit préféré, place Tafikière. Dès qu'ils furent assis, elle lui dit avec colère « Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu crées toujours un problème !»
Étrangement, sa colère à lui avait disparu tout à coup, comme si elle n'avait jamais existé. Il attendit un instant, puis il lui dit d'une voix qu'il s'efforça de rendre calme, comme s'il voulait la pitoyer. « Je t'en prie, Boussaïna, ne te mets pas en colère. »«
Je te demande ce que tu veux. »«
Je veux savoir si ce qu'on dit de toi est vrai. »«
Tu peux en être sûr. »«
C'est-à-dire ?»«
C'est-à-dire que tout ce que tu as entendu est vrai. » Elle le défiait, elle le poussait à bout.
« Tu as quitté le magasin de Talal ?»«
J'ai cessé de travailler chez Talal pour aller travailler chez Zaki Dessouki. C'est un péché ou c'est permis, monsieur le Tchèque ?»
Il dit d'une voix faible, « Zaki Dessouki a mauvaise réputation. »
« Oui, sa réputation est mauvaise et il court les femmes. » Mais il me paie 600 livres par mois, et attendu que j'ai la charge d'une famille, attendu que votre excellence ne peut pas me payer les frais scolaires, la nourriture et la boisson, eh bien cela ne regarde pas votre excellence.
Boussaïna, crains Dieu. Tu es un être bon, garde-toi d'irriter le Seigneur. Fais ce qui est juste et Dieu pourvoira à ta subsistance.
Dieu pourvoit à tout, bien sûr, mais nous, nous ne trouvons rien à manger.
Je peux te chercher un travail respectable.
Trouve-en un pour toi, mon cher ami. Et moi, je suis satisfaite du mien.
Ah bon, c'est comme ça?
Oui, c'est comme ça. Il y a quelque chose d'autre? Lui demanda-t-elle ironiquement. Un sentiment d'irritation l'envahit à nouveau. Elle se leva et, debout devant lui, lui dit en arrangeant ses cheveux et en se disposant à partir. Écoute, je te le dis pour la dernière fois. Notre histoire est terminée. Chacun s'en va de son côté, et s'il te plaît, il n'y a plus de raison pour qu'on se revoie. » Elle sourit vaguement et lui dit en s'éloignant. « Te voilà maintenant qui porte la barbe et qui est devenu pratiquant, alors que moi je m'habille court et j'ai les bras nus. On n'est pas assortis. » Participe à une manifestation d'étudiants islamistes et se fait arrêter.
La tâche qui avait été confiée à Ta était d'écrire des affiches et de les placarder tôt le matin sur les murs de la faculté. Dans ce but, il acheta des feutres de couleur et plusieurs rames de papier cartonné. Il s'enferma dans sa chambre sur la terrasse et s'absorba dans son travail au point qu'il ne descendit pas à la salle de prière et qu'il fit seul les prières du crépuscule et du soir. Il termina au milieu de la nuit. Il se sentait extrêmement fatigué et se dit qu'il lui restait peu d'heures de sommeil car il devait aller à l'université avant 7 heures du matin. Il ajouta 2 prosternations surérogatoires à la prière du soir, puis éteignit la lumière et s'allongea sur le côté droit en récitant, avant de dormir, son invocation habituelle. Il plongea ensuite dans un sommeil profond. Au bout d'un moment, il eut la sensation qu'il rêvait. Il fut éveillé par un concert de bruit. Il ouvrit les yeux et distingua les ombres qui bougeaient dans l'obscurité de la pièce. Soudain, la lumière se fit et il vit trois hommes énormes debout devant son lit. L'un d'eux s'approcha et le gifla violemment, puis lui prit la tête et la tourna brutalement vers la droite et Tahar vit pour la première fois un jeune officier de police qui lui demanda d'un air goguenard.
« Tu es Tahar Chazli ?»
Il ne répondit pas. Et les indicateurs le frappèrent brutalement sur la tête et au visage. L'officier posa à nouveau sa question et Tahar lui dit d'une voix faible
« Oui ».
L'officier sourit d'un air provocateur et lui dit
« Tu joues les chefs, fils de pute !»
C'était le signal. Les coups se mirent à pleuvoir sur Tahar. Le plus étrange, c'est qu'il ne protesta pas, ne cria pas. Il ne protégea même pas de ses mains son visage qui resta figé sous l'effet de surprise. Il s'abandonna complètement aux coups des indicateurs qui se saisirent de lui et l'entraînèrent hors de la pièce.
Tahar, jeté en prison, subira la torture et le viol. Il en sortira terriblement humilié, traumatisé et surtout assoiffé de vengeance contre ses bourreaux. Cette vengeance, il pense toujours pouvoir l'assumer au sein d'un groupe islamiste radical et prie chaque jour pour être envoyé en mission. Nous vous laissons le soin, en lisant l'immeuble Yacoubian de Alaa El Asvani, de suivre le fil de son destin. Que devient Boussaïna après sa rupture avec Tahar?
Zaki, en butte aux persécutions de sa sœur, se voit proposer une secrétaire par son fidèle domestique Abbas Karoun. Nous avons une sous-critère pour votre excellence, une jeune fille sérieuse. Excusez-moi, mais votre excellence, dans ces pénibles circonstances, a besoin d'une sous-critère qui s'occupe de votre excellence. Zaki Bey devint attentif. Il plongea un regard interrogatif dans celui d'Abbas Karoun, comme s'il venait de recevoir un message chiffré ou d'entendre une phrase dans un langage secret qu'il comprenait. Puis il répondit rapidement
« Bon, eh bien, je la verrai. »
Abbas Karoun resta silencieux. Il ne résistait pas à la tentation de titiller un peu son maître et il lui dit lentement « « Alors, votre excellence veut la voir ?» Le bey hocha rapidement la tête, puis fit semblant de regarder la rue pour cacher son trouble. Comme un magicien qui fait apparaître une surprise à la fin de son tour, Abbas Karoun tourna le dos et s'éloigna en frappant le sol de ses béquilles. Il disparut et, au bout d'une dizaine de minutes, revint avec elle. Jamais il n'oublierait ce moment où il la vit pour la première fois. Elle portait une robe blanche recouverte de grandes feuilles vertes qui moulaient son corps et en faisaient apparaître tous les détails. Ses manches courtes laissaient voir des bras nus, frais et dodus. Abbas Karoun la tirait par la main et il dit « Mademoiselle Boussaïna Sayed !» Son défunt père était un homme bien qui habitait avec nous, ici, sur la terrasse. Que Dieu lui fasse miséricorde, c'était plus qu'un frère pour moi et pour Malak. » Boussaïna s'avança d'un pas menu et chaloupé, puis sourit et son visage s'illumina d'une façon qui subjugua le cœur de Zaki. Elle lui dit
« Bonjour, monsieur le bey. »
Au bout d'un certain temps, Zaki et Boussaïna filent le parfait amour. « J'aurais voulu te rencontrer plus tôt. »
« Pourquoi ?»«
Toute ma vie aurait changé. »
« C'est le moment ou jamais. Vas-y, change ta vie. »«
Bon, que veux-tu que je change, Boussaïna? J'ai 65 ans, c'est la fin. » »«
Qui t'a dit ça? Tu peux encore vivre 20 ou 30 ans. La durée de la vie est entre les mains de Dieu. »«
Ah, si c'était possible. C'est qu'on voudrait bien vivre encore 30 ans ou au moins. » Ils rirent tous les deux, lui d'un rire grave, elle d'un long gazouillis mélodieux. Ils s'allongèrent sur le lit. Elle l'étreignit. Il sentit la caresse de ses cheveux abondants et souples contre ses bras. Ils s'étaient complètement débarrassés du sentiment de l'individualité de leur corps. Ils passaient des heures complètement nus. Elle lui préparait le café, des verres de whisky, des mezzés. Et de temps en temps, ils se couchaient ensemble. Parfois, ils lui faisaient l'amour, mais souvent, ils s'allongeaient seulement comme cela. Il éteignait la lumière de la chambre et contemplait son visage à la faible lueur tremblante venue de la rue. À ce moment-là, il lui semblait qu'elle n'était pas réelle, qu'elle n'était qu'une belle chimère, une créature nocturne qui allait disparaître soudainement comme elle était apparue aux premières heures de l'aube. Il parlait, sa voix jaillissait profonde, douce et chaude des ténèbres. Elle lui dit d'une voix sérieuse en regardant le plafond.
Quand allons-nous partir?
Partir où?
Tu m'as promis que nous partirions ensemble.
Il lui demanda, en le regardant dans les yeux, tu détestes toujours ton pays? Elle hocha la tête en regardant le plafond. Alors, je n'arriverai jamais à comprendre votre génération. De mon temps, la nation était comme la religion. De nombreux jeunes sont morts en luttant contre les Anglais. Boussaïna se redressa.
Vous faisiez des manifestations pour chasser les Anglais. Eh bien, ils sont partis. Ça veut dire que le pays va mieux maintenant?
La cause de la décadence du pays, c'est l'absence de démocratie. S'il y avait un véritable régime démocratique, l'Égypte serait une grande puissance. La malédiction de l'Égypte, c'est la dictature. La dictature amène immanquablement la pauvreté, la corruption, l'échec dans tous les domaines.
Tout ça, ce sont des grands mots. Moi, j'ai des rêves à ma mesure. J'ai envie de vivre tranquille, d'avoir une famille, un mari qui m'aime, des enfants à élever, une jolie petite maison, confortable, au lieu d'habiter sur la terrasse. Je veux aller dans un pays propre, où il n'y ait ni saleté, ni misère, ni oppression.
Tu étais dans le besoin, et celui qui est dans le besoin ne peut pas réfléchir, Boussaïna. Je ne veux pas que tu vives dans le passé. C'est une page tournée, c'est fini. Pense à l'avenir. Maintenant, nous sommes heureux ensemble et je ne t'abandonnerai jamais. Le silence se fit un instant. Zaki reprit avec enjouement pour chasser sa tristesse. Encore un mois ou deux, ou plus, et je vais toucher une grosse somme et je te prendrai et nous partirons.
Sérieusement?
Sérieusement.
Où irons-nous?
En France. Elle poussa un cri et applaudit de ses deux mains comme un enfant, puis il lui dit en badinant d'un air mutin.
« Mais toi, attention à toi, au cas où tu te fatiguerais de moi là-bas. Tu auras affaire à moi. »
Lorsqu'elle riait, les muscles de son visage se contractaient, et la sueur perlait à son front. Elle prenait soudain une apparence barbare et singulière, d'une certaine façon comme si elle avait été surprise par le bonheur, et qu'elle avait décidé de se cramponner à lui avec force pour qu'il ne lui échappe pas. Elle étreignit Zaki et murmura
« C'est bon, nous sommes d'accord ?»«
Nous sommes d'accord. » Laissons Zaki et Boussaïna à leur bonheur.
Vous pourrez rencontrer bien d'autres personnages attachants dans l'immeuble Yacoubian.
Hatem, le journaliste, et son protégé Abdou, ce qui permet d'évoquer la situation des homosexuels en Égypte.
Vous pourrez rencontrer Hadj Azam, l'ancien trafiquant de drogue, homme d'affaires et millionnaire, et sa compagne Soad, qu'il veut obliger à avorter.
Malak Kallo, trompé sur la possibilité d'acquérir